Actes chapitre 4, verset 23. Au 33. Les apôtres viennent d'être emprisonnés, ensuite relâchés, mais menacés de ne plus parler, de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ. Donc nous lisons ici Actes chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de l'Église persécutée, de manière que ces apôtres ont été arrêtés, emprisonnés. Et ici, nous voyons leur réaction, la réponse de ces premiers chrétiens à l'opposition. Et déjà, ce qui nous étonne ici, ce qui étonna le monde à l'époque, c'est ce que Luc veut nous montrer, je crois, c'est leur assurance, leur grande assurance. C'est un mot qui revient plusieurs fois, en verset 13 déjà, 4:13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et puis, dans leur prière, c'est ce pour lequel ils prient, verset 29, « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Et puis, verset 31, on voit la réponse à leur prière. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et encore, verset 33, ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. C'est ce qui est étonnant ici, c'est leur assurance, leur stabilité. On voit qu'à la fin de leur réunion de prière, quelque chose d'assez fort est arrivé. On apprend ici que le lieu trembla. C'était un signe de la présence de Dieu, ce lieu qui tremble. Et c'est vrai, c'est un thème dans la Bible qui revient assez souvent. La présence de Dieu fait trembler. La présence de Dieu secoue. Mais en général, la présence de Dieu, quand ça fait trembler, eh ben, ça laisse des gens effrayés, ça laisse des gens décomposés, ébranlés. Mais ici, c'est tout le contraire, on pourrait dire. Le lieu est ébranlé, mais ce qui ressort de manière si évidente, c'est que ces gens-là, ces premiers chrétiens, eux, ils sont inébranlables. Le lieu est ébranlé, mais les chrétiens ne le sont pas. Ils viennent d'être menacés, ils viennent d'être emprisonnés. Ce sont des choses qui déstabilisent, ce sont des choses qui peuvent nous faire trembler. Mais l'issue de tout ça, ce qui est beau dans ce passage, l'issue de tout cela, c'est pour ces premiers chrétiens plus de stabilité, plus de courage, plus d'assurance. Et je crois qu'on devrait lire ça et dire... oui, c'est ça qu'il me faut dans la vie, cette assurance, cette stabilité. On parle parfois des personnes instables. des personnes instables. Mais dans une certaine mesure, n'est-ce pas notre problème à tous? On est instable. Notre joie, notre bonne attitude qu'on sait qu'il faut avoir, notre désir d'aimer les autres, notre engagement pour le Seigneur, notre envie de témoigner. On aimerait que ce soit imperturbable par ce qui se passe autour de nous. Notre joie, notre bonne attitude, notre désir de témoigner, notre envie de continuer. Mais c'est souvent pas le cas. Ils sont ébranlés, ça tremble, ils sont déstabilisés. Alors quelle est la solution? Ben, Luc nous montre ici la solution, c'est l'assurance, c'est cette assurance. Alors on va regarder ça ce matin. Ce texte nous montre pourquoi il en faut. Ensuite, d'où elle vient, et enfin, le genre de vie qu'elle produit, cette assurance. Pourquoi il en faut cette assurance dont avaient les premiers chrétiens? Eh bien, on voit ici clairement que la vie, de toute manière, la vie a cette manière de nous déstabiliser. Le mot ici, j'aime bien, tumulte. Pourquoi ce tumulte? Effectivement, c'est ce qu'ils vivent, et c'est ce que nous vivons, un tumulte. La vie est remplie de tumultes avec des choses qui nous déstabilisent, des choses qui nous ébranlent. Alors ces apôtres se sont tournés vers Dieu dans ces moments de tumulte. Alors aujourd'hui, un peu la pensée athée regarde ça et dit oui, en fait, c'est normal. La religion nous vient d'une époque où les gens, justement, ils avaient peur. Ils avaient peur de beaucoup de choses. Ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ils avaient peur de l'inconnu. Ils avaient peur de l'au-delà. Ils avaient peur de tout ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Donc, ils n'avaient pas les explications scientifiques dont nous disposons aujourd'hui. Alors, ils se sont tournés vers la religion pour se rassurer, pour s'apaiser. Mais aujourd'hui, voilà, maintenant qu'on a les explications, maintenant qu'on voit plus clair, on n'a pas besoin d'avoir ces peurs, on n'a pas besoin de cette béquille de la religion. Mais regardez notre société, est-ce qu'on est si stable, si fort, si sereine que ça, après tout? Je ne suis pas sûr que notre génération sera connue comme la plus courageuse, la plus stable, bien dans sa peau. Parce que plus que jamais aujourd'hui, quelque chose qui nous guette, quelque chose dont on parle toujours, c'est l'insécurité. L'insécurité partout. Et quelque part, il nous manque cette assurance dont avaient les premiers chrétiens. Déjà, regardez à quel point notre société aime les assurances. La fortune qu'on dépense dans les assurances. Alors, j'ai recroisé dans ma lecture cette semaine un personnage peut-être assez connu dans la grande littérature française, et il s'agit d'un certain Séraphin Lampion. Vous connaissez Séraphin Lampion, c'est le vendeur des assurances dans les livres de Tintin. Déjà un prénom comme ça, c'est pas mal, Séraphin. Et il vous propose une assurance pour tout, y compris contre les arnaques des compagnies d'assurance, et y compris contre les assureurs. Mais c'est cette assurance-là, c'est pas celle dont Luc parle ici. Luc nous propose ici l'assurance, c'est plus que ça. Déjà, on voit cette assurance dans leur hardiesse de témoigner. Ils sont pas perturbés, dérangés par la réaction des autres, par ce que pensent les autres. Il y a une hardiesse dans le témoignage. Et dans ce mot assurance ici, c'est plus que ça, parce que c'est traduit un peu de manière différente dans le livret des Actes et dans le Nouveau Testament. Parfois fermeté, parfois liberté, parfois confiance. Il me semble pour Luc, c'est une pensée clé pour tout son livre. Il écrit ce livre pour aider les chrétiens à avoir cette chose dont on parle ce matin, l'assurance. Et même la toute dernière phrase de son livre, Actes chapitre 28, on retrouve ce même mot. Là, cette fois-ci, c'est Paul qui se trouve, on peut dire, un peu en prison. Mais Paul, Actes chapitre 28, verset 31, et il reçoit tout ce qu'il vient de voir dans sa maison, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Donc, c'est la dernière pensée, le dernier cadeau que Luc laisse à l'église de son époque. C'est dire, regardez Paul, il est emprisonné, et il est entouré d'obstacles, et pourtant, il a cette assurance, il a cette liberté, il a cette vie dont on rêve tous. Il vit une autre réalité, malgré la prison, malgré les obstacles, on dit de lui qu'il fait sa vie en pleine liberté, en pleine assurance. Et combien nous avons besoin de ça? Je pense qu'un jour de baptême, c'est un bon moment pour rappeler pourquoi il en faut l'assurance dans la vie chrétienne. Le baptême, c'est un début, tout est peut-être beau ce matin, mais le baptême, ce n'est pas le début d'une vie rose, c'est le début du combat, c'est le début de l'opposition. Comme cette église, ce qui est assez fort ici, c'est qu'ils viennent de vivre leur baptême, le baptême de l'Esprit, le Pentecôte, c'était une magnifique journée, un magnifique moment pour l'église. Ils avaient même quelques jours, quelques semaines peut-être d'une grande joie, une grande bénédiction, une grande croissance. Mais Luc, il montre bien que l'opposition ne se fait pas attendre rapidement, suite à cette guérison en chapitre 3, l'opposition arrive. Et là, il va falloir de l'assurance. Première fois qu'on rencontre un obstacle de l'opposition, est-ce qu'on met tout en cause? Nous, cette église n'a pas mis tout en cause, la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu. Visiblement, pourquoi? Parce qu'ils avaient quelque chose, ils avaient l'assurance. Et nous-mêmes, il faut être assuré de ça. Et est-ce que le tumulte est un signe que Dieu retire sa présence, retire sa bénédiction? Quand on a souvent l'impression, on fait des efforts de Dieu pour Dieu, comme ces premiers chrétiens, on fait des efforts pour Dieu. Pourquoi lui, il ne fait pas des efforts pour nous, pour arranger un peu notre situation au mieux? Parfois, on se demande, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Ils viennent d'être menacés, mettez-vous à leur place. Ils viennent de dire, si vous continuez comme ça, c'est la prison, c'est la mort, c'est autre. Et la question va se poser, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer tout ça avec l'obstacle, avec l'opposition? Ou même nous, malgré un baptême, malgré un beau jour comme ça, tout chrétien traverse des moments où il se pose des questions, mais finalement, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que l'évangile vraiment est vrai? Vous voyez, sans une assurance, sans cette chose qu'ils avaient, cette fermeté, cette stabilité qu'ils avaient ici, sans cela, on va forcément être très fragile, très faible, on va être très stressé, on va être très malheureux dans la vie. Donc, il y a le tumulte déjà, le tumulte autour de nous, notre besoin d'assurance. Et puis, je pense non seulement aux circonstances tumultueuses, mais je crois qu'il y a une autre chose qui nous déstabilise assez facilement, c'est ce que les autres pensent de nous. Ici, on parle des vaines pensées. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces vaines pensées? Et justement, les apôtres, comme Jésus-Christ, ils ont été victimes de vaines pensées à leur sujet. Ils reçoivent des menaces, ils reçoivent des moqueries. Ça, c'est, si vous y pensez, c'est très, très déstabilisant. Quand on voit ce que les autres peuvent penser de nous, non seulement pour notre témoignage chrétien, mais tout court. Je sais qu'il y a eu des enfants qui ont été victimes de pensées vaines, de paroles vaines de la part de leurs parents. Et ça peut déstabiliser même toute une vie. Il y a peut-être de la part des copains, de la part des amis, de la part des collègues, ceux qui pensent de nous, ça peut vraiment nous déstabiliser et nous faire passer une mauvaise journée, une mauvaise semaine, un mauvais mois, une mauvaise vie. Comment avoir l'assurance? Comment être imperturbable dans tout ça? C'est pas évident. Je sais pas si vous avez lu ça, les chroniques de Narnia. Ça a été fait aussi en film dernièrement, ces histoires de C.S. Lewis. Et dans un des livres, il y a la petite fille Lucy. Et il se trouve sur une île et elle doit un peu accomplir une mission toute seule, aller dans une maison pour sauver ses amis, ses camarades. Et donc elle se trouve dans cette maison et dans une chambre il y a un livre un peu magique et feuillette des pages et sur une page dans une des pages on peut voir savoir ce que ses amis pensent de soi. On peut dire écouter aux portes de leur conversation et de leur pensée à notre sujet. Alors elle se sent un peu coupable de le faire, mais elle regarde. Et elle voit ses deux amis de l'école en train de parler d'elle et ce qu'elles disent, c'est méchante à son sujet. La critique. Et elle voit ça, elle est perturbée, elle est même fâchée, devient malheureuse. Elle oublie en quelque sorte la mission pour laquelle elle est venue accomplir. Et ça crée en elle des pensées méchantes, toute une... Voilà, ça la déstabilise. Et c'est après le lion Aslan qui représente un peu Dieu, Christ, et il doit la reprendre un peu d'avoir prêté trop attention à ses pensées vaines. Mais combien c'est notre cas? Ça nous déstabilise, ça nous détourne de notre mission de vivre pour Dieu, ça nous refroidit dans nos témoignages. Vous savez, si notre stabilité, si notre sérénité dans la vie dépend constamment de ce que les autres pensent de nous, on sera fragile, on sera amer, on aimerait blâmer ou riposter. Et de toute manière, ce sera difficile de vivre, de partager notre foi. Donc, c'est sûr, il faut une assurance à cause du tumulte autour de nous, à cause des pensées vaines autour de nous. Il faut une assurance si jamais on va vivre avec joie, vivre avec courage, vivre la vie dont on aimerait vivre. Donc il en faut l'assurance. Alors d'où elle vient? Ce passage peut nous aider pour avoir cette assurance, la recevoir, la vivre. Alors on va voir où les apôtres ont trouvé tant d'assurance, tant de stabilité, tant de fermeté, alors que tout autour d'eux était assez chamboulé, bouleversé. Alors ce matin, j'ai pensé, puisque nous avons baptisé notre frère au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'aimerais rappeler que ce n'est pas juste une formule magique et qu'on attache au jour de baptême, mais on croit vraiment en tant que chrétien que le salut vient du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et peut-être on pourrait regarder notre assurance en venant de le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si ça peut nous aider à suivre, comprendre ce passage. D'abord, ils vont tourner vers Dieu dans la prière, le Père, et trouver une assurance dans sa personne. Ils se tournent vers le psaume 2. Donc ils prient et ils s'adressent à Dieu et leur prière est alimentée, inspirée par le psaume 2 qu'ils connaissent bien, un de leurs cantiques, un de leurs prières. Et dans ce psaume, le psaume 2, le passage qu'il cite, ça commence ainsi. « Pourquoi se tumulte parmi les nations, pour ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. » Alors, il voit cette prophétie, cette annonce, parlant d'un oint, d'un messie oint. En hébreu, c'est messie, en grec, c'est Christ. Et donc, il voit ce passage qui parle d'un Christ, du Christ. Et on annonce que ce psaume prophétise ou annonce que, justement, ce oint allait être rejeté, allait rencontrer de l'opposition, notamment de la part des rois de la terre, des princes qui se liguent contre Dieu et contre son oint. Alors, il tire la bonne conclusion que, justement, les rois de la terre, c'est qui? Ben, c'était Hérode et Ponce Pilate. Et ils y voient un accomplissement que Hérode et Ponce Pilate et tout ce qu'ont fait les autorités juives, les dirigeants, les princes juifs, ce qu'ils ont fait, eh bien, c'était accomplir ce que ce psaume annonçait. Donc, en pensant à ça, ils se disent, voilà, finalement, après tout, ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ont fait Ponce Pilate, tout ce qu'ont fait Hérode, tout ce qu'ont fait les autorités pour se liguer contre Jésus, eh bien, c'est ce que Dieu a annoncé. Ça veut dire, c'est ce que Dieu a voulu, c'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu voulait arriver. Alors que, c'est ça qui est frappant, c'est qui est étonnant, c'est que les choses qu'ils ont fait, les princes et les rois de la terre, pour se liguer contre le Seigneur, les choses qu'ils ont fait, c'était mal, c'était péché, c'était pas bien, rejeter Jésus-Christ. Et pourtant, ce qu'ils disent, c'est le verset si fort, finalement, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alors là, c'est une grande assurance quand on arrive à saisir cette vérité-là. Ils voient que tout ce qu'on fait de mal, de tort, de travers les autorités juives, c'était ce que la main de Dieu et le conseil de Dieu avaient voulu. C'est-à-dire, c'est plus que Dieu savait que ces choses allaient se passer. C'est Calvin qui souligne la main, l'idée de la main de Dieu. La main, dans la Bible, la main de Dieu, c'est son action, c'est son intervention. Alors, Dieu n'a pas juste joué un rôle passif d'observateur dans ce qui s'est fait à Jérusalem, les événements qui ont conduit à la croix. Dieu a joué un rôle actif, c'était sa main qui a dirigé toutes ces choses. Et donc, il se tourne vers cette vérité pour trouver une grande assurance. Finalement, tout ce qu'ils ont fait contre Jésus, c'était ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alors, ces versets-là sont très forts. Est-ce que Dieu voulait nous donner des casse-têtes théologiques à résoudre dans nos heures perdues, ou est-ce qu'il voulait nous donner de l'assurance de jour en jour? Eh bien, c'est surtout l'assurance qu'il voulait nous donner de jour en jour. Parce que les apôtres, ils savent l'appliquer à leur situation, qui est assez similaire d'ailleurs à celle de Jésus. Ils se disent, tiens, on se trouve à Jérusalem, nous aussi. Il y a les autorités qui se liguent contre nous aussi. Ils nous menacent, il y a le tumulte, il y a ces pensées vaines. Mais ils se disent, finalement, toute cette opposition, toute l'opposition qu'ils ont réussi à monter contre Jésus-Christ, n'était que le plan voulu, avec des résultats heureux. Alors, c'est bon pour nous aussi. Quoi qu'ils nous fassent, ça reste quand même ce que la main et le conseil de Dieu apportent. C'est très fort. C'est la pire des choses que le monde n'ait jamais connue. C'est la pire des choses que le monde ait connue, c'est-à-dire le rejet et le meurtre de Jésus-Christ, faisait partie du plan de Dieu. Alors, quelle assurance pour nous? Quelle est la pire des choses que vous avez vécues? Pouvez-vous dire aujourd'hui que peut-être c'est la main et le conseil de Dieu qui l'a amené? Avons-nous, avouons que nous aurons du mal à faire confiance à un Dieu qui n'est finalement pas comme ça. On aurait du mal à vraiment faire confiance à un Dieu qui était impuissant devant Ponce Pilate et Hérode, qui était plus grand, Dieu ou Ponce Pilate et Hérode. Si Dieu était impuissant devant les actions de Ponce Pilate et Hérode, il ne serait pas le Dieu tout-puissant qu'on aime et qu'on aime chanter. Et c'est la même réflexion pour nos vies. On pense au passé, on pense aux choses difficiles que nous avons traversées, on pense même des choses terribles que nous avons traversées. La question c'est toujours, mais comment se fait-il que Dieu était là, dans ce tumulte, dans ces vaines pensées? Mais si Dieu n'était pas maître des événements qui nous ont conduits jusqu'à maintenant, s'il n'était pas maître de ces événements-là, comment peut-il être maître de notre avenir pour nous en délivrer, pour nous en sortir, pour nous faire avancer? Il faudrait qu'il soit maître de tout, en fait, pour nous rassurer et du mal et du bien. S'il n'est pas maître du mal, il n'est pas puissant non plus pour nous aider. Et c'est ce qu'ils ont compris, c'est cette maîtresse absolue du Dieu, notamment quand il s'adresse à lui dans la prière, il se tourne à lui et il dit « Seigneur ». Bon, en français, on parle souvent du Seigneur dans nos prières. On s'adresse à Dieu en tant que Seigneur, mais dans le grec, c'est un mot qu'ils utilisent, c'est assez rare, très rare dans le Nouveau Testament, pour parler de Dieu, mais c'est le mot « despote ». Certaines traductions mettent « Seigneur souverain » pour souligner cet aspect du maître absolu. Justement, despote, quand les hommes détiennent le pouvoir absolu, ils deviennent méchants, on les appelle des despotes. Mais quand Dieu il a le pouvoir absolu, ce n'est pas inquiétant, c'est rassurant pour nous. Et on peut se tourner vers lui ainsi. Donc une grande assurance qui vient de connaître Dieu, le Dieu souverain de la Bible. Au nom du Père et du Fils, l'assurance vient aussi au nom du Fils. Il cite le psaume 2. Ce qui est très intéressant, c'est que le psaume 2 est une des rares occasions dans l'Ancien Testament qui parle du Fils de Dieu. Vous lisez le psaume 2, c'est assez étonnant, mais c'est là, il y a cette phrase où Dieu dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et puis à la fin du psaume, il dit, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Donc un psaume qui parle du Fils, et puis ses apôtres, bien sûr, ils connaissent le Fils de Dieu et tout ce qu'il a fait pour eux. Et le psaume 2 termine avec cette pensée, « Heureux tout ce qui se confie en lui, dans le Fils. » Ce qui est assez fort, assez étrange pour l'Ancien Testament, mais un appel à se confier dans le Fils de Dieu. Et si vous regardez bien Actes chapitre 4, c'est justement ce que les chefs religieux n'ont pas voulu faire. Et en fait, ce sont eux qui ont été totalement déstabilisés, eux. Vous les voyez là, ils sont complètement déstabilisés. Pourquoi ? Je vais vous dire. Parce que leur confiance, leur stabilité venait de leur position. Ils venaient de la manière qu'ils ont réussi à grimper l'échelle de la société, de la moralité, de l'intelligence. C'était là leur confiance. Alors que le psaume appelle à mettre notre confiance en Christ, dans le Fils. Leur confiance était dans cette manière qu'ils ont monté l'échelle très haut. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait ça, une cabane dans les arbres. Les garçons aiment faire ça, peut-être une cabane dans les arbres, il y a une échelle pour y accéder. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on joue à la guerre ou je ne sais pas, on monte l'échelle, on monte dans la cabane par l'échelle et puis on enlève l'échelle ou on le remonte avec nous pour que personne d'autre puisse nous prendre pour être assuré de notre position. Eh bien vous savez, c'est ce que nous faisons sur le plan moral, c'est ce que nous faisons dans nos pensées, c'est ce qu'ont fait les pharisiens. Ils ont dressé une échelle de la moralité, et puis, en montant, ils ont écrasé ce qu'ils voulaient monter, ils ont enlevé l'échelle pour que eux, ils se sentent rassurés de leur position. Nous le faisons avec notre intelligence, nos diplômes, toutes sortes de choses. Parce que finalement, d'où viennent nos insécurités, d'où vient cette soif d'assurance que nous trouvons dans le monde entier, dans le pays entier? D'où vient cette soif? C'est qu'au fond, on sait que si Dieu regardait vraiment nos vies, s'il regardait au fond de notre cœur, on serait déstabilisé. On serait mal à l'aise s'il y avait vraiment le regard juste, le regard saint de Dieu. Même le regard juste de notre conscience, on est déstabilisé. Alors, on monte des stratégies pour l'éviter et donc on se confie dans nos échelles que nous-mêmes on peut facilement enlever pour que d'autres ne puissent pas nous suivre ou on peut écraser ceux qui sont plus bas que nous. Et c'est ce qu'ils ont fait, ces autorités juives. Et puis Jésus arrive avec son message de l'évangile et ça les a complètement déstabilisés, ça a chamboulé leur système d'échelle. Parce que Jésus est allé plutôt vers les gens du bas de l'échelle, il les a aimés, il les a accueillis, il les a embrassés, et pour leur système d'échelle, ça ne marchait pas. Vous savez ce qui est fort, c'est Jésus, un jour, il a carrément dit, peut-être un paraphrase, mais il a carrément dit, je suis l'échelle. Je suis l'échelle, qui relie le ciel et la terre, l'homme et Dieu, et à la croix, il est devenu l'échelle, et puis il a dit que tout le monde peut passer, même manière, tout le monde peut passer, même les nuls, même les ratés, même les échecs, eux aussi, ils peuvent monter cette échelle aussi facilement que tout autre. Alors ce message les a complètement déstabilisés. Mais c'est pour ça que nous pouvons nous confier dans le Fils et trouver une grande assurance. Vous savez, il y avait un autre endroit où la présence de Dieu a fait trembler les lieux. Un autre endroit où il a manifesté sa présence et les lieux, la terre a tremblé, eh bien c'était à la croix. Parce que c'est ce que dit Matthieu 27, quand la voile du temple se déchira, eh bien la terre trembla. Il y avait la présence de Dieu, mais c'était cette présence de jugement, de colère. L'univers entier a été déstabilisé quand Dieu jugeait notre péché sur son Fils. Mais puisque Jésus a été déstabilisé, ben nous n'avons pas à l'être quand Dieu pose son regard sur nous, quand on s'approche de sa présence, on n'a pas à être déstabilisé. Jésus l'a été à notre place. C'est pour ça qu'on peut se confier dans le Fils. Parce que si, de toute manière, tout le monde se confie en quelque chose. Tout le monde a un contrat d'assurance à sortir. Pour se rassurer dans la vie. Un jour qu'il y a un pépin, un jour que
et quelque chose m'arrive, jour de la mort, quel est votre contrat d'assurance? Tout le monde fonctionne avec quelque chose. La Bible dit que tous nos échelles, tous nos contrats d'assurance, eh bien, et ils vont être déstabilisés devant la présence de Dieu. Il y en a un seul qui tienne, c'est Jésus-Christ, en tant qu'échelle pour nous. Heureux ceux qui se confient en lui. Ceux-là ne seront pas déstabilisés comme les autres l'ont été. Donc notre assurance vient du Père, du Fils, et je touche un mot aussi sur le Saint-Esprit. On voit ces premiers chrétiens, cette église, remplie du Saint-Esprit, visiblement c'est ça qui leur donne une grande assurance. Le même esprit qui a inspiré David d'annoncer ces choses, c'est ça qui est fort, et le même esprit le remplit pour qu'ils annoncent eux la parole du Seigneur. Le même esprit qui a ressuscité Jésus, qui l'a sorti du tumulte et des vaines pensées, qui l'a rendu victorieux, ce même esprit habite en nous, habite en eux, pour leur donner l'assurance, la vie. Je trouve intéressant quand Jésus a parlé de la annoncer les persécutions, le monde m'a haï, ils vont vous haïr. Juste après ça, il dit, mais je vais vous envoyer un consolateur. Un consolateur, et partout dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a ce rôle de nous consoler, de nous rassurer que nous sommes aimés de Dieu, que le tumulte et les vaines pensées autour de nous ne changent pas ce que Dieu pense de nous. Donc, l'assurance vient de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qu'il faut connaître pour avoir cette stabilité, cette fermeté dont jouissaient les premiers chrétiens. Et enfin, en regardant le genre de vie qu'elle produit cette assurance, le genre de vie qu'elle produit, il me semble que c'est cette vie-là que nous voulons tous, cette vie qu'on trouve ici. Déjà, ils sont imperturbables, déjà, ils sont joyeux, déjà, ils arrivent à continuer leur témoignage. Ils ne vont pas faire 2-3 mois de déprime parce que ça s'est mal passé devant les principaux sacrificateurs. Non, ils rebondissent rapidement, ils se trouvent ensemble, se dégage de ce passage une joie, une ferveur. Mais j'aimerais vous montrer surtout une chose, le genre de vie que cette assurance produit. Regardez ce qu'ils ont fait. Donc après cette réunion de prière, verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » C'est-à-dire, ils ont tellement d'assurance, tellement de fermeté, de stabilité dans la vie, qu'ils peuvent être libres avec leurs biens. Ils peuvent faire des sacrifices. Vous voyez, leur assurance ne vient pas de leur possession. Alors qu'en France, dans notre pays, c'est la source principale de notre assurance, c'est les choses qu'on a, la maison qu'on a, la stabilité qu'on a dans le salaire, le travail, ce qu'on appelle le matérialisme. Leur assurance, visiblement, ne vient pas de ça, de leur possession, de leur belle maison, tout ça, parce qu'ils les partagent, ils les donnent librement, ils n'ont pas besoin pour se sentir bien. Alors imaginons que les persécuteurs, l'opposition vient et leur dit « Maintenant, on va vous confisquer vos biens. » C'est justement ce qui arrive souvent dans la persécution. La première église, tout comme l'église persécutée de nos jours, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les biens, les maisons, la propriété, on les casse, tout ça. Alors imagine qu'on vient leur dire, vous les chrétiens, pour vous arrêter, on va vous confisquer vos biens. Est-ce que ça va les déstabiliser alors qu'ils viennent de le vendre et le donner à tout le monde pour montrer leur amour et leur... Ça ne va pas tant les déstabiliser. Imaginons qu'on vienne vers les chrétiens et on dit « Maintenant, attention, on va dire du mal de vous. » Est-ce que ça va les complètement déstabiliser? Ça va faire mal, mais est-ce que ça va complètement les déstabiliser? Ils peuvent se dire « Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Dieu dit du bien de moi. » Ce que Dieu dit de moi, c'est ce qu'il dit de son fils. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui je prends tout mon plaisir. Parce que à la croix, c'est ce qu'il m'offre. Alors on va vous dire du mal de vous. Ah ben, Dieu dit du bien de moi. Alors c'est pas tant déstabilisant. Vous voyez, si Dieu n'est plus une menace, si c'est plus son regard que nous craignons, eh ben les hommes ne le sont plus non plus. Je crois qu'on a cité, c'était la semaine dernière, je vous ai laissé cette citation que j'avais lue récemment du philosophe danois, Søren Kierkegaard. Et en fait, j'ai lu ça, c'est dans un livre, une réflexion, où il aide C'est un peu le problème de la dépression et de la déprime. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit le vrai courage, c'est d'avoir peur de ce qui est vraiment effroyable et pas du reste. Le vrai courage, c'est avoir peur de ce qui est vraiment effroyable et pas du reste. Et ce que Jésus a dit aussi un jour, il a dit, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est de ça qu'il faut surtout avoir peur. Mais quand le chrétien sait que Jésus, il a péri à ma place, il était allé à la géhenne, à l'enfer à ma place, ben le reste n'est plus vraiment, vraiment effroyable et déstabilisant. Il y a une grande assurance qui vient. Imaginons qu'on vienne leur dire, je termine avec ça, bon, on va vous confisquer vos biens. Bon, ça ne les a pas déstabilisés, ils les avaient déjà donnés de manière généreuse. On va vous dire du mal de vous. Ça ne va pas tant les déstabiliser parce qu'ils savent ce que Dieu dit, ils pensent d'eux. Ok, maintenant on va vous tuer. Est-ce que ça va les déstabiliser, ceux qui connaissent la mort et la résurrection de Jésus-Christ? C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont fait à Jésus, ils l'ont tué. Et franchement, le résultat était plutôt positif. Ils ont tué Jésus-Christ, mais ça n'a pas freiné le salut, ça n'a pas freiné l'évangile, ça n'a pas freiné l'avancement de l'Église. Au contraire, c'était le moyen. C'était exactement comme ça que la main et le conseil de Dieu avaient prévu. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, mais je l'aime bien. S'il y avait un pasteur qui était dans l'église où j'ai grandi, qui nous a rendu visite, qui donnait son témoignage. C'était un pasteur qui était allé en Roumanie à l'époque du communisme, il s'était fermé. Alors on lui a dit, et il a fait le choix de rentrer. Il en était sorti en Occident, il était paisible, mais il a fait le choix de retourner pour annoncer l'évangile, sachant que ce que ça allait le coûter. Alors il commence à prêcher l'évangile, les autorités viennent le rattraper et disent... arrêté. Il continue, il est arrêté de nouveau, et ça vient à ça, et les autorités viennent maintenant, si vous continuez, on va vous exécuter, on va vous tuer. Alors, il leur a dit, moi je vais continuer à prêcher l'évangile, sachez que, déjà, ce que je prêche, c'est écouté par beaucoup, sachez que si vous me tuez, en fait, vous allez me faire la pub, parce que mes cassettes, déjà, ça circule. Mais si les gens savent que vous m'avez tué parce que je prêchais ces messages, eh bien, vous savez très bien qu'ils vont en demander plus de ces cassettes, et ça va circuler beaucoup plus. Alors, que faire? Ils l'ont laissé repartir, il a continué à prêcher l'évangile. Et il a pu nous raconter après. Donc, la stabilité et l'assurance, vous l'avez en Jésus-Christ. J'aime bien ce cantique qui dit « Qu'aurions-nous à craindre, étant rachetés, que mal peut atteindre des ressuscités, vous en êtes un, si vous êtes en Jésus-Christ, mort ressuscité pour vous, que mal peut atteindre une grande stabilité, que Dieu vous bénisse. Amen. »